Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'RCFM pour un nouveau numéro du magazine Sobre à l'eau. Nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une tradition, on va dire un petit peu dans nos rendez-vous depuis quelques années. Nous sommes au musée de Bastia pour évoquer cette exposition qui s'intitule Corsica Impériale. Ça a démarré au mois de juillet, ça se poursuit jusqu'au 21 décembre. Ça évoque Napoléon III et la Corse sur une période qui va de 1851 à 1870. Alors on va faire cette visite comme nous avions déjà eu l'occasion de le faire lors des deux précédentes expositions. Et nos guides du jour sont toujours les mêmes, à savoir, on va commencer par Audrey Julian, qui est responsable des expositions et des publications ici au musée de Bastia, et le directeur de ce musée, Sylvain Grigour. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Audrey, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes rompu à l'exercice, on est là au début de cette exposition. Alors, je le dis aussi à nos amis auditeurs, exprès, je ne suis pas venu voir avant pour la découvrir en même temps qu'eux. J'essaye de me mettre un petit peu à leur place. Première question, Sylvain Grigour, pourquoi le choix de cette exposition, ce titre Corsica Impériale ?
Donc, l'idée de cette expo, elle est venue d'un constat. Le premier, c'était un constat historiographique. On s'est rendu compte qu'en fait, le sujet avait assez peu été traité et était très mal connu du grand public. Et le deuxième constat, c'était qu'en travaillant sur ce sujet, on s'est aperçu qu'en fait, les liens entre Napoléon III et la Corse et la période du Second Empire étaient un moment charnière dans l'histoire de la Corse, aussi bien au niveau politique que culturel et économique. Donc c'est vraiment une exposition qui devait être faite pour que le public corse et touristique connaisse un peu mieux cette partie de l'histoire de l'île qui est très méconnue.
Si je vous écoute, c'est pour pallier un manque, alors j'ai l'impression, Audrey.
Oui, tout à fait. On avait un manque historiographique assez important. On n'avait pas non plus d'ouvrage qui fasse une synthèse, on va dire, historique, politique, économique et même artistique. Donc, c'est chose faite avec l'exposition et le catalogue d'exposition de 400 pages qui l'accompagne. Donc, nous présentons les objets présents dans l'exposition et où les spécialistes de différents sujets ont écrit justement des articles scientifiques sur ces différents propos.
Et on va s'en apercevoir, Sylvain, cette période, vous nous l'avez déjà dit, elle est charnière dans notre histoire, on va dire, récente, hein, où on va passer, alors je sais pas si les termes sont bons, d'une italianité à une francisation. Est-ce que les termes sont bons déjà? Est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, vous ne vous trompez pas du tout, les termes sont adéquats. C'est vraiment une période de basculement de la Corse, de l'ère culturelle italienne vers l'ère culturelle française. Et y compris au niveau économique, on retrouve le même processus, un processus qui est porté par Napoléon III via le bonapartisme, comme on va le voir dans l'exposition, et via aussi la nationalisation des élites. Donc on voit très bien que c'est une période vraiment charnière dans l'histoire de l'île.
Alors on va démarrer cette exposition, on est au tout début, devant nous se dresse l'aigle impérial, la Corse bonapartiste. Un mot quand même pour nos amis auditeurs, je ne sais pas si c'est Audrey ou Sylvain, Napoléon III, juste pour le resituer dans le temps par rapport à Napoléon Bonaparte, c'était son neveu.
Alors oui, c'est son neveu, c'est le fils de Louis, un des frères de Napoléon, donc c'est la deuxième génération des Bonaparte, et son règne va s'échelonner entre 1852 et 1870, sachant qu'en 1848, et c'est ce qu'on évoque ici dans l'introduction, c'est le premier président de la Seconde République, donc, et le premier président, et pour l'instant l'unique, président d'origine corse.
Alors on va démarrer, donc vous nous le disiez, on est au tout début de son installation, enfin de son règne, on va dire, 1848-1850, cette période-là.
Alors dans cette section introductive, on présente justement comment Napoléon III, qui s'appelait à l'époque Louis-Napoléon Bonaparte, est arrivé à la présidence de la République et comment, dès 1848, les parlementaires de ce régime corse ont été, dès ce moment-là, des bonapartistes. Donc on voit très bien que ce qu'on appelle les républicains du lendemain, en Corse du moins, vont très vite verser du côté des Bonaparte et vont participer à sa conquête du pouvoir et à l'instauration du Second Empire.
Le pouvoir, il le prend de manière un peu brutale et puis il y a quelques purges derrière, non ?
Alors, il le prend de manière brutale.
Je ne juge pas l'histoire, mais voilà.
C'est vrai, en France continentale, c'est le coup d'État de décembre 1851 qui marque le renversement du régime républicain, puisque Napoléon III ne pouvait pas être réélu à la présidence de la République, donc il fait un coup d'État et il va instaurer le Second Empire et devenir, cette fois, Napoléon III de façon, on va dire, officielle. Donc c'est vrai que ça se passe très mal en France continentale parce qu'il y a une résistance politique des républicains qui est très forte et qui est même armée. Il y a près de 25 000 arrestations, plus de 9 000 déportations, donc il y a une très très grosse répression en France continentale, alors qu'en Corse, pas du tout.
On saisit l'opportunité.
on saisit l'opportunité parce que le mythe impérial fonctionne déjà, donc on accueille très bien l'avènement du Second Empire et on accueille aussi très bien surtout le coup d'État de décembre 1851. On a d'ailleurs dans l'expo deux petits imprimés qui sont rédigés en langue corse à cette époque-là et qui vantent le coup d'État. Donc vous voyez qu'on est complètement à l'opposé de ce qui se passe au niveau national et ce qui démontre déjà ce lien très fort que le régime, avant même sa naissance officielle, va tisser avec la Corse via le bonapartisme.
On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Alors, dans cette première salle, Audrey, il y a ce magnifique buste donc, de Napoléon III. Que pouvez-vous nous en dire alors ?
Alors, tout d'abord, je voudrais juste préciser que nous avons préparé l'exposition avec deux commissaires. Le premier, Jean-Paul Pellegrinetti, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Côte d'Azur à Nice, et Jean-Marc Olivez, qui est conservateur général à la Maison Bonaparte à Ajaccio. Donc, nous avons eu la chance pour cette exposition d'avoir de nombreux objets, que ce soit tableaux, sculptures, donc prêtés bien évidemment par les institutions corses. On les remercie toujours, que ce soit le musée Fesch ou le musée de la Corse, mais aussi par de prestigieuses institutions continentales, par exemple le musée d'Orsay, le palais de Compiègne ou la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et j'en passe bien sûr, et de nombreux prêts privés. Donc ça c'est tout à fait important pour nous, puisque c'est des objets qui sont généralement présentés pour la première fois au grand public.
On aura l'occasion d'en parler aussi. Hein. N'hésitez pas à nous en parler au fur et à mesure de notre déambulation.
Voilà, et c'est pour ça que je voulais souligner, puisque ce buste est un prêt justement du musée d'Orsay via le palais de Compiègne. Donc c'est un buste en marbre vraiment très réaliste de Napoléon III, avec ses insignes, de nombreux détails, et ça marque le début de l'exposition. Et ce moment, un phare.
Et ce grand portrait aussi. Hein,
un très grand portrait en pied, deux portraits en buste, un de Napoléon III et un de l'impératrice donc Eugénie, puisque Napoléon III épouse en 1853 Eugénie de Montijo, comtesse de Tebas, qui est une aristocrate espagnole. Et comme... Si vous voulez, il n'y a pas vraiment de couronnement. C'est dans un premier temps le mariage en 1853, donc qui va faire office, si vous voulez, de grande installation hein, du Second Empire. Et par la suite, en 1856, le baptême du prince impérial, où là...
Qui vaudra comme un sacre.
Exactement, c'est la fameuse phrase hein, de Napoléon III qui dit « ce baptême vaut bien un sacre ». Donc en effet, hein, Napoléon III confie toute la décoration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à déjà Eugène Viollet-le-Duc, dont on a entendu parler justement pour l'incendie de Notre-Dame. Et donc c'est le tout Paris qui s'y presse, on a plus de 6000 invités, enfin, c'est voilà, quelque chose d'assez incroyable.
Alors on va poursuivre, toujours on est au début de l'exposition, alors on va pas tout dévoiler. Là il y a, si on passe dans parce que la pièce est divisée en deux, il y a cette grosse, alors je sais pas quel est le terme exact, moi je dis cette grosse pierre avec une inscription de 1869, ça n'a pas un rapport avec un voyage ça ou je me trompe ?
Ah oui, tout à fait. C'est la pierre qui a été utilisée, c'est la pose de la première pierre de l'hôpital de Bastia par l'impératrice Eugénie en 1869, hein, lorsqu'elle se rend avec le prince impérial à Bastia. C'est un des grands voyages de la famille impériale en Corse. On en compte trois. On compte le voyage donc en 1860 de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. 1865, c'est le cousin de l'empereur qui fait partie du gouvernement Jérôme dit Plomplon, qui vient à Ajaccio. Et en 1869, donc, on a l'impératrice et le prince impérial qui viennent à Bastia et à Ajaccio.
D'ailleurs, dans la mise en scène, voilà, il y a cette pierre dont vous venez de nous parler. Il y a également cette truelle, j'imagine, qui symbolise peut-être le fait de porter sur les fonts baptismaux l'hôpital. C'est ça ou je n'ai pas lu encore ?
Oui, tout à fait. C'est une truelle,
une belle truelle
en argent ciselé qui ont servi donc lors de la cérémonie de la pose de cette première pierre. Et les voyages impériaux sont importants parce qu'ils tissent justement un des liens que le régime va mettre en place avec la Corse, un lien où l'île est la terre des origines de la famille Bonaparte et elle est représentée dans l'imaginaire politique que le Second Empire veut mettre en place comme telle. Donc on confère vraiment à l'île une place particulière dans cet imaginaire politique.
La mise en scène, c'est vous Audrey ?
Non, nous faisons appel à des spécialistes, hein, des scénographes et des graphistes. Et donc là, l'idée était vraiment de représenter les trois voyages impériaux. Et on a beaucoup de chance, puisqu'à l'époque, déjà, on avait de nombreuses gravures qui illustraient ces différents voyages, ces différents séjours, avec presque heure par heure ce qui se passait. C'était un peu le Paris Match de l'époque. Et voilà, on trouvait que c'était assez sympathique de pouvoir voir les différentes phases de ces voyages, jusqu'aux bals et feux d'artifice le soir en hommage justement à ces différentes personnalités qui venaient justement en Corse et qui étaient accueillies vraiment par des foules assez impressionnantes.
Alors on va continuer, alors, et devant nous se dresse une grande et immense photo, c'est la place Saint-Nicolas, Sylvain. Alors elle date de quand cette photo? Parce qu'elle, alors, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas parler de tout, hein. C'est vrai que c'est extrêmement riche, on va essayer de... Oui, si vous voulez dire quand même un mot, je vous en prie, bien sûr.
Alors c'est là je vous présente un objet qui est assez important, c'est un ostensoir, c'est assez symbolique puisque tout au long du régime, en fait, Napoléon III va tisser avec la Corse des liens quand même assez particuliers et il fera des cadeaux très réguliers pour toutes les communes de Corse. Et là c'est par exemple un ostensoir, donc à gloire rayonnante, qui est assez beau, hein, doré et argenté, avec son étui où on peut lire donné par Sa Majesté l'Empereur Napoléon III 1862, et ça c'était pour la paroisse de Venaco.
Alors, c'est toujours à Venaco? Ça a été prêté par Venaco? Comment ça s'est passé pour...
Oui, c'est un prêt de la paroisse de Venaco, donc, hein, qu'on a réussi à trouver grâce à Jean-Charles Chavat, hein, qui nous l'a signalé comme objet assez symbolique, justement, de, comme le disait Audrey, de ce lien que Napoléon III va tisser avec la Corse et qui est symbolisé aussi par ces cadeaux qui sont faits aux communes et aux paroisses.
Alors, je reviens à cette grande et magnifique photo. Elle date de quand? On voit une place Saint-Nicolas. Ne fût-ce que pour voir la place Saint-Nicolas, je m'adresse au Bassier, parce qu'elle est... Moi, je n'avais jamais vu. Hein, j'avais vu une photo un petit peu plus aérienne de ce côté triangulaire de la place Saint-Nicolas, mais comme ça, avec une vue prise depuis le haut de la place Saint-Nicolas, elle est fantastique.
On y voit la statue de Napoléon Ier, qui a été achetée par la ville en 1849 à Lorenzo Bartolini, qui est le grand sculpteur de la première moitié du XIXe siècle en Europe, et qui a été installée en 1855, donc en plein régime impérial. Et c'est un peu un objet symbolique qui nous permet de traiter d'une des marques du Second Empire en Corse, c'est-à-dire l'instrumentalisation du mythe de Napoléon Ier par Napoléon III, notamment à travers la statuaire qu'on va retrouver un peu dans toutes les villes de Corse.
On y reviendra sur cette personnalisation ou sur cette... Alors, je sais pas, est-ce que le terme propagande est approprié ou pas?
Oui, tout à fait. Dès son... Avant même l'avènement du Second Empire, dès la présidence, son accès à la présidence de la République, Louis-Napoléon Bonaparte va mettre en place toute une propagande qui vise à le présenter d'un côté comme un homme providentiel, hein, un sauveur de la République, et de l'autre côté, à partir de 1852, comme l'héritier de Napoléon Ier.
Alors, on va nous poursuivre. Alors, bien sûr, Audrey, cette photo, sincèrement, je m'approche même quelques instants. Elle est même fascinante parce que j'ignorais qu'il y avait des remparts au bout de la... Enfin, c'est... Franchement, c'est à voir, hein.
Alors en fait, on a souhaité justement la reproduire en très très grand format pour que les gens puissent regarder de plus près et de redécouvrir, hein, finalement l'histoire de la ville. On voit que certains immeubles de la place Saint-Nicolas ne sont pas encore construits, donc ce qui permet vraiment d'avoir une idée précise sur la chronologie. On a la statue, donc la maquette préparatoire de cette statue de Napoléon Ier par Bartolini. Et puis il faut dire que Napoléon III fait appel à de très grands architectes pour la Corse. C'est-à-dire que par exemple, il souhaite honorer un vœu de son oncle cardinal Fesch qui avait émis en 1839 l'idée de constituer, si vous voulez, à Ajaccio une chapelle impériale. Et là, il fait appel à Alexis Paccard, qui est Grand Prix de Rome, qui est au service du château, enfin, du palais des Tuileries et du Louvre. Et il lui demande justement de construire une chapelle impériale, un projet de chapelle impériale pour Ajaccio, ce qu'il fera. Et la chapelle sera inaugurée pour mettre toute les cendres, on va dire, de la famille impériale, en 1860. Il fait également appel à Eugène Viollet-le-Duc, une fois de plus, pour rendre hommage, toujours à Ajaccio, hein, sur la place du Diamant, à ce qu'on a appelé familièrement l'Encrier, mais qui est une sculpture très importante, un groupe en fait très important, qui est celui de Napoléon Ier et ses frères. Donc voilà, par le biais d'architectes, en fait, ils montrent l'enracinement du culte impérial en Corse, et c'est un vecteur tout à fait qu'on retrouve hein, via l'architecture, via l'urbanisme et via justement la statuaire, d'un transfert culturel qui se fait petit à petit.
Terra vecchia di Mesonia, isola verde e luminosa, case mandi all'antigonia, impalpate generosi, così fate un nostro mondo, benedetto da gimo a fondo.
Sobralogo, je vous le rappelle, nous sommes au musée de Bastia avec Audrey Giuliani et Sylvain Grégory. On est là pour évoquer, on l'a déjà fait dans cette première partie, cette exposition que vous pouvez voir jusqu'au 21 décembre qui s'intitule Corsica Imperiale ou Impériale, je l'ai un peu corsisé, Napoléon III et la Corse entre 1851-1870. Il y a énormément de choses. Là, on est toujours au premier étage, hein, au début de cette exposition. Une série de portraits, de costumes, enfin de vêtements. Ce sont quoi ? Ce sont des Corses qui sont représentés ici ?
Alors oui, tout à fait. Un des liens entre Napoléon III et la Corse, il est incarné par des hommes qui sont ses proches et également des membres du gouvernement ou des parlementaires, dont on a ici quelques portraits et quelques accessoires de cérémonie qui nous permettent justement de voir comment ces élites corses sont sous le Second Empire, au cœur du régime, comme jamais elles ne l'ont été auparavant. Donc c'est vraiment là aussi un basculement politique. On voit l'intégration des élites insulaires au plus haut niveau de l'État.
C'est Napoléon III qui a voulu s'entourer de ces personnes-là ou sont eux qui ont un peu forcé quelques verrous pour se retrouver près de Napoléon III ?
Alors, ils n'ont pas eu à forcer beaucoup de verrous, vu leur attachement au bonapartisme qui est très précoce. Donc c'est un peu naturel qu'on les retrouve à différents rouages de l'État. Et c'est vrai que Napoléon a eu dans son entourage direct, personnel, tendance à s'entourer de nombreux Corses. On compte par exemple Tito Franceschini Pietri, qui était son secrétaire particulier, Étienne Comte, qui était son chef de cabinet, Félix Baccio, qui était son grand chambellan. Donc ça, c'est des hommes qui sont très proches du pouvoir et qui complètent un autre groupe, qui sont ceux qui ont des responsabilités plus politiques, comme le garde des Sceaux à Batucci, par exemple. Et après, des fonctions un peu plus honorifiques, comme le maréchal d'Ornano, ou, et puis enfin des parlementaires, comme Casabianca, par exemple. Donc, on voit très bien comment Napoléon III s'est entouré de Corses, parce que c'était politiquement des hommes sûrs et fidèles au nouveau régime en 1852, et surtout parce qu'il permettait aussi, en tant que chef de clan sur leur île, d'enraciner encore davantage auprès des populations le courant bonapartiste. Donc c'est un peu donnant-donnant et gagnant-gagnant. Donc d'un côté, Napoléon III ouvre les portes du pouvoir à ses Corses, et de l'autre côté, ceux-ci le soutiennent sur leur île d'origine.
Il y a eu un petit retour de bâton dans l'histoire. Après, à la fin de cette histoire, vers 1870, les Corses ont été un petit peu décriés et on a eu mauvaise presse parce qu'il y avait peut-être cette omniprésence-là. Je pense à la guerre contre la Prusse, etc. On a reproché à un ambassadeur corse, Benedette, je ne sais plus si c'est son nom, c'est ça, d'être un petit peu à l'origine du conflit qui s'est mal terminé pour Napoléon III.
Oui, tout à fait.
Je vais vite, mais c'est un peu ça.
Oui, c'est exactement ça, cette surreprésentation dans l'entourage de l'empereur. Il n'y a pas une surreprésentation des Corses dans tous les domaines du pouvoir. Va expliquer la vague de corsophobie que l'on va retrouver à la chute de l'Empire, où là, Napoléon III va subitement apparaître dans l'imaginaire national comme représentant de la Corse, et uniquement cela. Donc on voit bien là aussi comment la corsité que Napoléon III va afficher dans ses professions de foi en 1848, qu'il va afficher au cours de ses voyages dans l'île, ça va se retourner contre lui à la chute du régime.
Alors on va continuer parce qu'on aura l'occasion bien sûr de revenir sur d'autres épisodes. On a fait un petit saut vers la fin parce que avant qu'il y ait cette fin de règne, il y a eu énormément de choses et c'est le thème de cette exposition. Vous me dites, hein, Audrey, si on passe devant quelque chose d'extrêmement important qu'il faudrait signaler, sachant qu'on n'a pas non plus 3 heures.
Alors on est ici, nous avons souhaité reconstituer en fait une galerie de ces grands hommes, hein, afin que les personnes qui visitent l'exposition puissent comprendre quel rôle ils avaient. On a une petite notice biographique qui accompagne les œuvres, souvent des bustes, des portraits, mais aussi des objets plus personnels comme les épées d'apparat ou les encriers qui sont complètement spectaculaires. Ici, nous avons l'encrier justement de Vincent Benedetti qui est assez incroyable, avec un cheval en argent, des espèces de palmiers qui montrent justement toute cette vie politique, hein, un peu au cadre.
Voire même la puissance du personnage, parce que pour avoir un encrier de la sorte.
Oui, complètement. On a donc cet encrier-là, on en a un autre qui est en cristal. Enfin, on voit vraiment que c'était un objet très important pour ces hommes, hein, puisque tout le travail en amont aux archives montre bien, les liens épistolaires quasi quotidiens. Et on a en face de nous, par exemple, le portrait de Casabianca, qui aide beaucoup, par exemple, pour la réalisation du port de Bastia. Le nouveau port de Bastia, c'est en partie grâce à lui.
D'autres grands travaux aussi, hein. La Corse a bénéficié, on va dire, de cette bienveillance, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire, Sylvain Grégoire, qu'à partir de Napoléon III, quand même, de grands travaux, je pense à des hôpitaux, vous nous citiez le port de commerce, Napoléon III, quand même, pour la Corse, a voulu beaucoup de choses.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a toute une politique de grands travaux qui va être mise en place dès le début du Second Empire, à l'instigation justement de ces Corses qui entourent l'empereur. Mais on va voir ça dans une section suivante. Là, on est dans la section qui est consacrée à la résistance au Second Empire, parce qu'on a vu, on vient de voir la vague bonapartiste qui submerge l'île dès 1852. Hein, Napoléon est élu déjà président de la République en 1848 avec plus de 90% des suffrages en Corse. Donc c'est vraiment un attachement très fort au niveau politique à sa figure. Mais il y a quand même des résistances qui se font jour, qui sont certes minoritaires et très contraintes par le contexte politique. Hein. On est là avec des notables locaux qui tiennent leur clientèle électorale et qui sont généralement tous bonapartistes. Mais il y a quand même un petit noyau de républicains animés par Patrice de Corse, qui vont essayer de lutter contre cette vague bonapartiste et qui vont être le noyau dur des futurs républicains du régime suivant, la Troisième République.
Lorsqu'on monte une telle exposition, on a à l'esprit le fait de toujours contrebalancer, je dirais, les événements, de ne pas être simplement d'aller dans un seul sens de réflexion, dire Napoléon III, il a fait que des miracles, etc. Non, vous, il y a cette réalité ou vérité historique que vous souhaitez aussi toujours mettre en contrepoint de l'événement principal.
Oui, tout à fait. Il ne s'agissait pas de faire une exposition panégyrique sur Napoléon III et la Corse, mais au contraire d'avoir un regard objectif et critique. Donc on le voit ici dans cette section-là. On va le voir dans les sections suivantes, notamment avec la question donc des grands travaux qu'a mené Napoléon III, qui sont finalement des travaux de rattrapage et peut-être moins de modernisation, avec des échecs, hein, comme le chemin de fer, quand même, qui est vraiment un marqueur de la notion de progrès portée par le régime et qui ne se fera pas en Corse à cette époque-là.
Alors on va continuer parce que nous sommes à la moitié de l'émission et je sais qu'on a même peut-être même pas vu la moitié de l'exposition. Pareil, on continue. Là, je m'arrête une seconde, Audrey. C'est assez saisissant. Alors c'est une statue d'une, comment on appelle ça, une tête.
C'est un masque mortuaire.
Un masque mortuaire, voilà, cherchez le nom.
De Napoléon III, qui nous a été prêté justement par le musée Fesch à Ajaccio. Et cette section, c'est vraiment essentiel puisque ça marque la fin du Second Empire avec différentes œuvres comme l'incendie des Tuileries prêté par le musée d'Orsay, une assiette retrouvée indemne mais brûlée qui vient du château des Tuileries, et vraiment la fin de tout ce faste et la fin de l'Empire.
Et puis dans la mise en scène aussi, nos amis auditeurs remarqueront hein, le rideau noir pour symboliser bien sûr ce deuil.
Oui, nous sommes plus du tout sur la première partie où on a vraiment des couleurs prédominantes comme le rouge ou le doré. Et là, c'est vraiment la partie plus sombre de l'exposition.
Oui, parce que dans la première partie, c'est aussi même, on va dire, au niveau... peut-être pas architectural, mais au niveau des meubles, etc. Tout ce style Napoléon III, on le sent aussi dès le début de l'exposition. Hein.
Alors oui, c'était un parti pris, et puis on va le retrouver dans la seconde partie de l'exposition, où on s'attaque à quelque chose de plus artistique, on va dire, plus versé sur l'art et la manière de vivre.
Alors là, nous sommes donc à la fin du premier étage, nous allons prendre l'escalier et nous rendre donc dans la deuxième partie de l'exposition.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Sobralogo, troisième partie avec Sylvain Grégoire et avec Audrey Julian pour évoquer cette exposition au musée de Bastia, Corsica impériale, Napoléon III et la Corse 1851-1870. Ça a démarré en juillet, ça se tient jusqu'au 21 décembre. Alors, nous sommes donc dans la deuxième partie. Là, on sent la nature, je ne sais pas pourquoi. Il y a du vert, il y a une superbe peinture au fond qui représente une forêt. Bon, tout cela est bien mis en scène. Alors, ça représente quoi ?
Alors, on va dire que sur l'étage supérieur, c'était vraiment la Corse bonapartiste. Et ici, on est sur la partie, sur la Corse du Second Empire. Donc, on va découvrir ce qu'était la Corse à cette époque-là, donc à partir de 1850-52. Et c'est vrai que c'est une île qui intrigue. Pourquoi ? Simplement, les grands écrivains comme Rousseau, Boswell permettent de redécouvrir la Corse puisque c'est l'île de la liberté, des libertés, par rapport justement au mythe de Pascal Paoli, etc. Et on est aussi dans l'idée du grand tour, c'est-à-dire ces Anglais qui partaient en Italie, jusqu'en Grèce, à Pompéi aussi, pour découvrir les vestiges antiques. Et la Corse fait partie en fait un petit peu de ces îles, de ces endroits méconnus, mais surtout sauvages, qui sont restés vraiment dans leur jus où l'industrialisation n'a pas encore fait son œuvre. Et là, c'est différentes, justement, différents tableaux, différents dessins qui sont présentés pour montrer ce qu'était cette Corse à cette époque-là. Et on a des dessins, justement, représentant Sartène et Ajaccio qui ont beaucoup éveillé la curiosité des visiteurs puisque c'est des témoignages assez rares. On a très peu de documents, finalement, de Sartène, de dessins sur la vie à Sartène à cette époque. Et ici, tout prend forme, hein, que ce soit des portraits, des paysages ou aussi des représentations de villages où on voit qu'à partir de 1850 à 1900, les villages ont quand même aussi évolué, que ce soit dans les constructions d'églises et plein de petits détails comme ça qui permettent de découvrir une autre Corse.
Juste un mot aussi sur cette vidéo, Sylvain, à laquelle vous avez participé, vous signez le scénario, toujours dans cette salle. Et j'en reviens encore une fois, moi je suis impressionné à chaque fois par la mise en scène des expositions. Je ne suis pas spécialiste des musées ailleurs, mais je trouve qu'il y a une professionnalisation, c'est mon point de vue, lorsqu'on visite cette exposition.
Ben merci.
Ah oui, non, mais c'est très sincère. Non. Et puis c'est très agréable. Des fois, on vit des expos, on reste un petit peu sur notre faim. Là, il y a vraiment de quoi régaler sa curiosité.
Ben, on espère, en tout cas c'est le but. Donc comme vous l'a dit Audrey, hein, cette partie c'était un peu pour montrer comment c'est sous le Second Empire justement que l'image pittoresque de la Corse va se diffuser en France continentale mais aussi dans toute l'Europe. Et cette vidéo, ce petit multimédia qu'on a réalisé, il présente justement cette Corse rurale des montagnes, l'image qu'on en a encore aujourd'hui, hein, qui reste encore très forte, telle qu'elle est mise en scène par un photographe qui va être mandaté par Jérôme Napoléon Bonaparte pour venir en Corse faire des clichés de l'île en tant que terre natale de la famille Bonaparte en 1865.
Allez, on poursuit avec un couloir où il y a des colonnes. Là, on a l'impression de rentrer dans un palais. Pareil, le jeu des couleurs est important. Alors, dans cette salle, Audrey, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ?
Alors, nous avons intitulé cette section « Une île à moderniser ». Et c'est ici qu'on présente justement tous les grands travaux qui sont réalisés au fur et à mesure par Napoléon III, que ce soit par exemple son action pour les forêts corses, pour le port de commerce, toute l'action des ponts et chaussées dans les villes au niveau de l'urbanisme, mais aussi la modernisation de toutes les infrastructures et portuaires, les phares et balises, les routes, hein, puisqu'il y a un travail énorme qui est fait sur les routes, que ce soit les routes forestières ou les routes qu'on appelle justement routes impériales. Et voilà, c'est tout ce qui est mis en place à cette époque-là, la découverte du tourisme, le thermalisme. Voilà, nous assistons vraiment à une nouvelle Corse, en fait, hein, et l'urbanisme, justement, est assez symbolique puisqu'on passe des petites villes, disons enserrées dans les remparts aux ruelles sinueuses, à de grands boulevards, des plans à damiers où s'érigent donc des immeubles cossus de plusieurs étages. On est vraiment à une transition.
Vous nous disiez, Sylvain, précédemment, beaucoup de succès, beaucoup de choses positives, mais vous nous disiez, le chemin de fer, ça a été un échec. Vous pourriez un petit peu préciser ?
Oui, alors qu'en France continentale, le chemin de fer est vraiment l'œuvre industrielle et progressiste qui est portée par l'Empire. En Corse, alors on lance des études, bien sûr, mais il n'y a aucun tracé qui est réalisé. Et les lignes de chemin de fer, en fait, seront ouvertes au début de la Troisième République. Donc on voit que là, il y a, entre guillemets, un ratage du Second Empire dans un domaine qui était vraiment très symbolique et très fort pour le régime impérial. De même, cette modernisation de la Corse, c'est aussi un effet de rattrapage de son retard économique et de sa marginalisation vis-à-vis de l'économie nationale. Donc on voit qu'il fallait être un petit peu critique dans cette partie-là et pas présenter justement les grands travaux portés par le Second Empire comme vraiment une réussite totale et complète dans le sens de la modernisation de l'île.
Est-ce que le Second Empire a voulu lui-même rattraper ce retard historique, ou c'est l'historien qui juge que c'est un rattrapage historique ? Quel est un peu l'état d'esprit de Napoléon ? Il disait effectivement la Corse est en retard, on va l'équiper, on va la moderniser. Comment ça s'est passé selon vous ?
Alors c'est surtout sans doute l'œuvre de l'entourage de Napoléon III qui a vraiment poussé dès le début du régime, en saisissant un peu cette opportunité historique, de faire que l'île soit modernisée, rattrape son retard et soit surtout insérée dans des circuits économiques et commerciaux davantage portés vers la France continentale que vers l'Italie, ce qu'elle était jusqu'alors.
À ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop la Corse, qui n'allaient pas penser qu'on a rattrapé tout le retard historique. Il y a encore du boulot, à mon avis.
À l'ultimeia de Gepasa d'un ombre qui cercava te non tu eros ci gore un battello
cerca nello sarà morto un re. In cerca nello sarà morto un re. E un son che di te o morì di te da un giorno a verità sino alla notte infinita seguita l'ombra che cerca a te seguita l'ombra che cerca a te.
On va quitter cette... À moins qu'il y ait quelque chose d'incontournable et qu'on le signale à nos amis auditeurs, Audrey.
Juste, on peut dire qu'à cette période-là, il y a la métallurgie aussi qui se développe de façon assez importante et tout ce qui concerne le monde agricole, puisqu'il y a des salons qui sont organisés, une école est prévue aussi. On essaie vraiment de moderniser tout ce qui fait partie de l'agriculture corse pour permettre un nouvel avenir justement aux jeunes gens qui peuvent s'installer.
Nous allons passer dans une pièce qui, alors la couleur est magnifique. Je suis pas spécialiste des couleurs. C'est quoi, vert céladon ça ou c'est non, c'est un vert plutôt amande, je sais pas, non. Bon.
Vert amande.
Alors superbe peinture. Alors là, il y a tout un mobilier qui a été reconstitué aussi, alors et qui représente Audrey.
Alors c'est un intérieur type, on va dire, d'un intérieur Bastier par exemple, ou ajaxien du Second Empire, avec des meubles particulièrement travaillés. Pareil pour les chaises lyres, avec ce dos.
C'est un peu chargé, on est loin du style Ikea. Hein.
Oui, c'était très chargé et c'était encore plus chargé que ce que nous l'avons représenté, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a ces tapisseries complètement incroyables sous le Second Empire, des plafonds peints, souvent justement les tomettes par terre et presque on pourrait dire qu'il n'y a pas un centimètre libre dans la maison entre les portraits, les paysages, le mobilier et tout ce qui fait partie du décor.
Donc ça évoque le style de vie de cette époque-là.
C'est complètement pour évoquer le style de vie, que ce soit au niveau du mobilier, donc des intérieurs, mais aussi au niveau de la mode, puisqu'on a ici une très belle robe qui fait partie des collections du Palais Carafe, donc de la ville de Bastia, qui est une robe complètement exceptionnelle, une robe à crinoline qu'on ne peut pas différencier du Second Empire, c'est vraiment tout à fait symbolique. Et donc elle tourne avec, elle est accompagnée d'une petite musique. Et c'est vraiment pour montrer, si vous voulez, qu'on est à une époque charnière aussi, puisqu'on n'est plus dans la référence du monde italien. On est vraiment tourné vers ce qui se passe à Paris. Pourquoi ? Simplement, on a le développement de tout ce qui est journaux d'époque, où on peut commander directement ses robes par correspondance.
Les premiers catalogues, alors.
Voilà, les premiers catalogues. Et donc, à Bastia, on retrouve plusieurs factures, quand on a la chance de pouvoir dépouiller des fonds d'archives, de maisons privées, on retrouve donc beaucoup de commandes faites par les jeunes femmes de l'époque qui commandaient non seulement les robes, les jupons, les ombrelles et tout ce qu'il y avait avec.
Voilà, sacrée taille de guêpe. Hein. Alors, à la fin de la journée, alors on sort du style de vie pour continuer à avancer et on rentre dans une pièce beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche. On va peut-être savoir pourquoi. J'ai l'impression que ça, on va parler d'Italie là, ou je me trompe, Sylvain?
Oui, tout à fait. Un des propos de l'exposition, c'était justement de parler de ce basculement culturel que va connaître la Corse sous le Second Empire, et un basculement qui se matérialise par la perte progressive de son italianité culturelle, par le fait du processus de francisation qui est porté par le régime impérial, et en réaction, l'apparition d'un mouvement de résistance et d'opposition culturelle porté évidemment par la figure emblématique de Salvatore Viale et qui marque aussi donc la conséquence de ce processus de nationalisation. Et on va voir apparaître à cette époque-là, sous le modèle de la Storia Patria italienne, de nombreux ouvrages d'histoire de la Corse qui matérialisent cette résistance culturelle et cette singularité corse qui est en train d'apparaître sous le Second Empire et d'être revendiquée comme telle, mais juste d'un point de vue culturel, pas d'un point de vue politique, et qui est finalement à l'origine de ce qui va devenir, sous la Troisième République, la question corse. Qu'on assiste à un processus de francisation, pour prendre un exemple, les publications en langue italienne qui sont imprimées en Corse chutent considérablement tout au long de l'Empire, et on voit très bien que la littérature devient de plus en plus d'expression française. De même aussi symboliquement, on peut parler de la statuaire sur Pascal Paoli, elle va carrément disparaître à partir de 1852, donc avec les deux statues qui sont inaugurées à Corte et à l'île Rousse. Et on va voir que cette figure symbolique, cet opérateur symbolique dans l'imaginaire culturel et identitaire insulaire va être complètement effacé par la statuaire de Napoléon Ier qui est diffusée dans l'île par le régime impérial. Donc on voit très bien qu'on...
C'est le début du culte napoléonien, on peut dire.
Ah oui, c'est très nettement l'affirmation et l'enracinement presque définitif, puisque jusqu'au XXe siècle, du culte de Napoléon Ier, qui va rentrer en rivalité avec celui de Pascal Paoli. Donc on voit très bien qu'à cette époque-là, c'est une période charnière au niveau de l'identité culturelle de la Corse, avec trois voies qui se dégagent, celle de la francisation, celle de l'italianité qui est en train de se perdre, et la troisième, une corsité qui est en train de se constituer comme telle.
On est en plein dedans, encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, on sort de l'expo, mais j'ai l'impression que finalement, depuis cette période-là, les choses avancent difficilement, en tout cas.
Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt d'une exposition historique, c'est qu'on peut établir des passerelles, des parallèles et des comparaisons avec la période actuelle. Donc on voit très bien qu'on est là aussi, dans ce domaine-là, le domaine de l'histoire politique et de l'histoire culturelle, dans un continuum historique, qu'il n'y a pas de parenthèse et que l'histoire se fait sur le temps long.
Alors on ne peut pas aller jusqu'au bout de la dernière salle, parce qu'il y a également un commentaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler et est-ce qu'on est vraiment là à la fin, déjà de l'émission quasiment, et de l'exposition?
Voilà, la dernière salle de l'exposition est consacrée à un documentaire réalisé par Dominique Lanzalavi qui reprend, si vous voulez, les traces encore visibles du Second Empire. Et on peut voir justement à travers ce petit film que tout ce qui a été créé à cette époque en termes d'urbanisme, d'architecture ou de statuaire sont vraiment d'édifices clés encore aujourd'hui qui marquent nos villes. Hein, c'est vraiment très emblématique. Cette période est particulièrement emblématique sur ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Alors, comme on est quasiment au terme de l'émission et de l'exposition, finalement, Sylvain et Audrey, je vous pose la question, vous qui avez travaillé énormément sur cette collection, enfin sur ce thème-là, qu'est-ce qui reste de Napoléon III, de ce moment impérial, dirons-nous, aujourd'hui, au-delà des restes, bien sûr, physiques que l'on peut observer. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, vous, quel est votre sentiment? Alors là, on sort un petit peu du domaine de l'histoire, qui est le vôtre, mais vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a appris de plus, le fait d'avoir travaillé sur ce thème-là?
Ah ben, on a vraiment compris pourquoi et comment cette période a été un moment clé de l'histoire de la Corse, hein, et c'est ce que on espère met en exergue cette exposition et fera comprendre à tous les publics. C'est vraiment un moment charnière dans l'histoire de l'île qu'on a voulu mettre en avant, présenter au public et surtout lui faire comprendre.
Et le public, justement, qui depuis juillet arpente les salles, quelles sont un petit peu les différentes réactions, à la fois des insulaires et des visiteurs étrangers?
De façon très générale, on a de très bons échos. Les gens sont vraiment surpris, agréablement surpris par la scénographie et par la thématique. Ils découvrent mais vraiment énormément de choses, que ce soit au niveau historique ou au niveau artistique. Il y en a vraiment, comme ils nous disent, pour tous les goûts. Et ils trouvent que le fait d'avoir des œuvres un petit peu exceptionnelles, enfin complètement exceptionnelles même, qui sont issues des prêts ou des institutions, même comme le musée de l'armée, par exemple, ou par des privés, ça les fascine, parce qu'on a des objets quand même assez remarquables. Donc ça leur donne envie même de revenir une deuxième fois, souvent, pour voir les choses de plus près.
La question qui tue, vous la voulez? La dernière pour la fin, Sylvain est cinquième. Non, elle me vient comme ça. Pour la Corse, Napoléon Ier, Napoléon III. Je sais pas si on a dû vous la poser, celle-là. Je vois qu'Audrey sourit.
Non, mais c'est évidemment celui qui a fait le plus pour l'île, c'est incontestablement Napoléon III. Maintenant, bon, on ne peut pas comparer les deux personnages qui avaient aussi des échelles, on va dire, qui étaient à une échelle politique tout à fait différente, hein, l'un européen, même si Napoléon III a quand même une vision et va développer une politique diplomatique très très forte. Hein, il va participer à l'unité italienne, ce qui est quand même pas rien. Hein, il y a aussi la guerre de Crimée qui va sceller aussi toute la politique dans cette partie-là de l'est de la Méditerranée. Donc, il reste que quand même pour la Corse, Napoléon III a évidemment fait beaucoup, non seulement dans le domaine économique comme on l'a vu, mais aussi politique et culturel.
Alors, en général, on annonce toujours, sans peut-être dévoiler le nom, mais je pense que vous travaillez déjà sur la prochaine exposition, donc ça va arriver rapidement. Ce sera quoi ? Moi, je suis curieux. Là, je vais la prendre en même temps que nos amis auditeurs.
Voilà, on va vous faire un scoop. Donc, l'année prochaine, on va avoir une exposition qui s'intitulera Banditi, Brigandage et banditisme, Corse-Italie, 17e, 20e siècle. Donc, une grande expo qui va un petit peu remettre en question l'image du bandit d'honneur, notamment, que l'on peut avoir encore dans notre imaginaire insulaire.
Comment ça se passe pour choisir un thème ? Il y a une commission qui se réunit, il y a plusieurs idées qui sont lancées. Juste par curiosité, comment ça se passe ?
Alors, nous présentons des thématiques et nous débattons longuement, souvent avec énergie pour défendre nos idées. Et puis, voilà, en général, on arrive à se mettre d'accord rapidement. Donc, nous avons un programme assez complet, on va dire, qui s'étale jusqu'en 2024, voire 2025.
Ah, on n'ira pas jusqu'au scoop, mais enfin, disons que la prochaine exposition concernera, on va dire, les bandits, cette thématique-là. Pour être très concret, je sais que ceux qui nous écoutent également se posent la question, le musée, il est ouvert tous les jours, pas tous les jours, les horaires, à partir de maintenant, le mois de septembre ?
Alors, jusqu'à la fin septembre, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et à partir du début octobre, on sera ouvert du mardi au samedi.
On rappelle aussi qu'il y a les catalogues, hein, et ces publications qui sont présentes à l'entrée, qui sont à la disposition du public, Audrey ?
Oui, cette année, on a été, parrainé par la Fondation Napoléon. Donc, on a un catalogue quand même très, très complet de 400 pages, qui est au prix de 35 euros.
Avant de nous séparer, Audrey Julian, au sous-sol du musée, il y a quelque chose attend les visiteurs aussi, un petit peu original, on va dire.
Oui, tout à fait. Comme sous le Second Empire, c'est vraiment une période phare au niveau du développement de la photographie. Nous avons fait une petite vidéo justement pour expliquer l'histoire de la photo. Et à l'intérieur d'une ancienne cellule, nous avons constitué, c'est vraiment une exposition participative, un petit studio photo de, on va dire, plus moderne qu'à l'époque, mais où on peut se prendre en photo en robe crinoline avec un système de représentation de photos anciennes via son smartphone.
Merci infiniment à Audrey Julian, à Sylvain Grégoire. On rappelle cette exposition, sincèrement, venez la voir. Même si le thème, a priori, ne semble pas trop vous intéresser, vous allez vraiment passer un moment vraiment agréable. Prenez le temps aussi, parce qu'il y a énormément de choses à voir, à lire et à observer. Corsica impériale, Napoléon III et la Corse de 1851 à 1870, c'est pour la période. Et c'est à voir donc au musée de la Corse, sauf le lundi, jusqu'au 21 décembre. Et je dis une bêtise pour terminer ?
Au musée de Bastia.
J'ai dit au musée de la Corse. Ah, il y avait déjà une expo sur Napoléon, c'était pour ça que... mais c'était il y a quelques années et c'est au musée de Bastia, hein, ne nous trompons pas en tout cas. Merci infiniment. Merci beaucoup.